Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Une Allemagne incertaine après les élections d'hier, alors que l'Italie, elle, réapprend à s'aimer. Restez écouter la chronique de Franceline Beretti dans quelques minutes. Et puis des dauphins à Lisbonne pour le plus grand bonheur des touristes. Mais donc l'Allemagne pour commencer. Après les élections d'hier, les concertations débutent pour former une coalition gouvernementale. Qui sera chancelier ? Olaf Scholz, candidat des sociaux-démocrates du SPD, arrivé en tête avec près de 26% des suffrages, l'espère. Armin Laschet, le conservateur de la CDU, ne jette pas l'éponge malgré une contre-performance historique de son parti. Et les Verts, comme les libéraux, ils semblent en bonne place pour entrer au gouvernement. C'est ce qu'explique l'historien Klaus-Peter Sick à notre envoyé spécial à Berlin, Frédéric Lebel.
Les Verts ont eu un score historique. Ils sont avec 15%. 14% plus fort que jamais. Donc il y a une atmosphère de changement, d'un besoin de changement de la politique allemande. Et plus particulièrement chez les jeunes, il faut savoir que plus de la moitié de l'électorat allemand a 50 ans et plus. C'est incroyable en Afrique ou ailleurs dans le monde. Et il y a seulement à peu près 3% des électeurs qui ont moins de 20 ans, qui sont donc les premiers électeurs. C'est très très, très peu.
Et ces jeunes-là votent massivement pour le parti vert.
Ces jeunes-là votent massivement pour les partis qui n'ont pas été au pouvoir, ou les Verts ou les libéraux. C'est très intéressant.
Depuis leur dernier passage au gouvernement allemand, c'était au début des années 2000, est-ce que les Verts ont acquis, en responsabilité de gouvernement et en lien avec les milieux économiques ?
Vous savez, le Parti des Verts en Allemagne, c'est une structure massive. Entre-temps, il a été fondé en 1980, ça fait 41 ans. Donc, il est depuis lors devenu une véritable force gouvernementale. Il exerce le pouvoir, il est leader dans un État fédéral très important, le Baden-Württemberg avec Kretschmann. C'est l'État où nous avons une grande, très grande industrie, Daimler-Benz, Bosch et autres. Donc un exercice du pouvoir tout à fait, disons, centriste et responsable. Et il s'avérera responsable et apte au compromis au pouvoir fédéral aussi.
Il y a un dossier qui pourrait être vraiment très douloureux au sein d'une coalition, c'est le fameux gazoduc Nord Stream 2 qui doit alimenter l'Allemagne en gaz russe. Et là, les Verts ont déjà dit il est impossible que ce gazoduc entre en service.
Ça sera l'un des conflits épineux entre le SPD, on le sait, l'ancien chancelier Schröder est l'une des têtes de ce projet, n'est-ce pas ? Ça sera donc une pierre d'achoppement dans les négociations de coalition entre les Verts et les sociaux-démocrates. En général, dans la politique envers la Russie de Poutine, mais aussi la Chine et aussi d'autres régimes autoritaires ou dictatures dans le monde, les Verts sont moins portés vers le compromis que les autres partis.
L'historien Klaus-Peter Sick au micro de notre envoyé spécial à Berlin, Frédéric Lebel. Les écologistes allemands gardent aussi un œil sur l'expérience en cours chez leurs voisins autrichiens. L'un des partis écolos les plus puissants d'Europe est en Autriche. Les Verts sont au gouvernement depuis un an et demi maintenant, aux côtés des conservateurs. Ils s'accommodent finalement assez bien, position très dure en matière d'immigration par exemple. Et l'on trouve au sein de la droite autrichienne une fibre écolo. Mais pour certains militants verts, à Vienne notamment, une ville nettement plus à gauche, la déception est grande. À Vienne, Céline Béal.
Vienne, les bureaux du club parlementaire du Parti vert autrichien. Le député Lukas Hammer est porte-parole pour les questions climatiques et énergétiques. Pour lui, la crise climatique ne pouvait plus attendre. Il fallait que les Verts entrent au gouvernement, quitte à faire des compromis politiques douloureux en travaillant avec des conservateurs très à droite de l'échiquier politique. Un an et demi plus tard, est-il satisfait de son bilan pour le climat ?
En juillet dernier, nous avons bouclé un des ensembles de lois les plus importants de cette législature. Je l'ai moi-même négocié pendant 6 mois. La loi de renforcement des énergies renouvelables. Elle prévoit que nous passions à 100% d'énergie renouvelable en Autriche d'ici à 2030. L'électricité que nous utilisons et produisons ne proviendra que de sources comme le soleil, l'eau, la biomasse ou le vent.
Autres avancées, la multiplication par 8 des aides à la rénovation thermique des foyers, la multiplication par 10 des fonds pour la construction de pistes cyclables. Mais les Verts sont attendus au tournant sur un de leurs projets les plus importants, actuellement en préparation.
Nous travaillons à une réforme fiscale éco-sociale par laquelle nous voulons introduire une forme de taxation du CO2 qui respectera l'équité sociale.
Mais pour mettre en œuvre ce projet crucial, il faut bien négocier avec le Parti conservateur, le partenaire de coalition. Des négociations souvent éreintantes et qui ont écorné la popularité des Verts.
On savait dès le début que ce ne serait pas une partie de plaisir.
Reinhard Uhrig, de la grande organisation environnementale autrichienne Global 2000, un regard extérieur.
Je pense que les Verts eux-mêmes savaient qu'ils entraient dans une coalition en tant que partenaire junior, sous un chancelier très puissant. Ce n'est pas étonnant que nous n'ayons pas, d'un coup, un changement de système en Autriche. Nous, nous trouvons bien que certains thèmes très importants soient mis sur la table. Des choses comme le milliard pour le climat que nous réclamions depuis longtemps. Il a été décidé l'année dernière. Maintenant, chaque année, l'Autriche doit dépenser 1 milliard pour la protection du climat. Malheureusement, la mesure est limitée à 2 ans pour l'instant et on espère que cela sera pérennisé.
Alors, qui est en meilleure position pour faire avancer la cause du climat ? Les Verts au gouvernement, les grosses ONG avec leur campagne de communication ou bien peut-être des militants qui préfèrent la désobéissance civile aux palabres parlementaires ? Direction le nord-est de Vienne, dans un quartier en développement. La municipalité veut construire ici une route qui doit relier ce quartier au reste de l'agglomération et se prolonger vers une nouvelle autoroute. Et celle-ci doit traverser une zone naturelle protégée. Tout ce méga-projet scandalise les défenseurs de l'environnement. Depuis fin août, une centaine d'activistes occupent le chantier. Noah, étudiant en informatique de 23 ans, campe ici depuis une semaine, sa tente à côté des pelleteuses à l'arrêt.
Nous occupons les lieux pour mettre fin à la folie des grandeurs des autoroutes et des méga-projets qui épuisent les énergies fossiles.
La nouvelle route relève de la compétence de la municipalité viennoise et les Verts, au gouvernement fédéral, n'ont pas directement la main sur le chantier. Indirectement, un peu. La ministre verte des Transports a déjà mis en question la construction de l'autoroute qui est liée à ce projet. Mais sur le chantier, les militants n'ont pas l'impression que le gouvernement fasse suffisamment pour sauver la planète.
Moi, personnellement, je suis très déçue de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent.
Amina Guggenbichler, 20 ans. Elle est engagée au sein de Fridays for Future, un groupe de jeunes qui organise l'occupation du chantier aux côtés d'autres organisations environnementales.
Fondamentalement, j'ai le sentiment que les Verts attendent toujours un peu que nous fassions quelque chose, qu'ils comptent sur nous pour être ici, sur le terrain, à leur place. Alors, c'est vrai que c'est aussi notre responsabilité de prendre les choses en main, puisqu'il en va de notre avenir, mais c'est quand même aussi surtout la responsabilité des hommes et des femmes politiques. C'est à eux de rendre possible pour nous un avenir qui vaille le coup d'être vécu.
En ce qui concerne l'avenir immédiat, certains rêvent ici de recréer le miracle de Hainburg. Il y a 35 ans, à une quarantaine de kilomètres plus à l'est, une occupation similaire, mais avec des centaines de personnes, avait abouti à l'annulation d'un projet de centrale hydroélectrique. Et accessoirement, à la formation du Parti Vert autrichien, celui-là même que les militants d'aujourd'hui trouvent si décevant maintenant qu'il est entré au gouvernement.
En Irlande, les Verts aussi sont au gouvernement. Ils représentent la troisième jambe d'une coalition de centre-droit depuis juin 2020. Mais Emmeline Vint, le parti écologiste, peine à imprimer sa marque sur la politique irlandaise.
Disparu des radars, c'est comme ça qu'un militant des Verts parle du leader du parti, amer après plus d'un an au pouvoir. Eamon Ryan pourtant fait partie du trio qui dirige le gouvernement irlandais depuis l'été 2020. Mais bien que présent aux conférences de presse et grands événements, il est largement éclipsé par le Premier ministre et le vice-premier ministre. Lui, d'ailleurs, n'a pas d'autre titre que ministre des Transports. Les Verts sont largement minoritaires dans la coalition avec 3 portfolios sur 15. Dans les rangs, on admet que grâce à la présence du parti écologiste au gouvernement, la question climatique prend plus d'importance. Il y a bien eu quelques lois, mais trop peu pour une partie de la base. Les militants attendent davantage d'investissements sur le train, sous-financé en Irlande, auquel on préfère la voiture, plus de mesures de protection de la biodiversité et une politique gouvernementale moins accueillante vis-à-vis des data centers qui s'implantent en masse dans le pays et qui consomment énormément d'énergie. La base, justement, elle se divise petit à petit. Pour le moment, il n'y a pas eu de défection massive, mais les Verts se partagent désormais en 2 branches bien distinctes. Les anciens, représentés au gouvernement, adeptes d'une écologie progressive, et les jeunes, qui défendent une politique globale de justice sociale et climatique. C'est vraiment un mauvais moment pour diriger, soupire hors micro un militant, à cause de la pandémie et de la crise économique, et qui prédit une déroute aux prochaines élections. Italia, po, 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 purro, po, 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 azzurri, po, 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 purro, po, 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 Italia, po, 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 purro, po, 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 azzurri, po, 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 purro, po, 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 campioni. Les chiffres sourient à l'Italie en cette rentrée. 5% de taux de croissance en 2021 selon les estimations de l'OCDE. 3/4 des plus de 12 ans vaccinés contre le coronavirus. C'est un meilleur taux de couverture vaccinale que l'Allemagne par exemple. Et ce ne sont que 2 exemples parmi d'autres qui semblent participer à un cercle vertueux, Franceline Beretti. Loro non sanno di che
parlo, vestiti sporchi fra di fango. Ça, c'est l'hymne de l'Italie qui gagne. Le tube du groupe de rock Les Maneskin, les vainqueurs du concours de l'Eurovision en juin. Ils ont fait la fierté de tout leur pays. Fierté même de l'extrême droite. Pourtant, des hommes qui s'embrassent goulûment et portent des collants en latex, ça n'est pas tellement à son goût, d'habitude. Mais les Italiens ont fini premiers devant la France. Ça vaut toutes les concessions. Cette musique, c'est beaucoup plus qu'une victoire à l'Eurovision. C'est le son d'une nouvelle ère. Parce qu'après ce succès, tout s'est enchaîné.
Le sifflet de l'arbitre, la course de Saka, le tir. Nous sommes champions d'Europe. 23h54, l'Italie est championne d'Europe pour la 2e fois de son histoire.
Champion d'Europe de foot, avec une victoire au tir au but contre l'Angleterre le 11 juillet dernier. Et ça n'était que le début. Au mois d'août, aux Jeux Olympiques de Tokyo, une moisson exceptionnelle, 40 médailles. Le record historique des Jeux Olympiques de Rome en 1960 est battu. Même quand ça n'a pas marché au Japon, comme pour l'équipe italienne de volley, bam, l'Italie se rattrape juste après, en remportant les championnats d'Europe il y a quelques jours. Et que dire de lui, alors ?
Ce sont tellement d'émotions incroyables, peut-être trop à gérer. Novak a été meilleur que moi, probablement aussi pour ça, parce que c'est un grand champion.
Le sympathique Matteo Berrettini, arrivé en finale de Wimbledon en juin contre le maître du tennis mondial, Novak Djokovic. Bon, Berrettini a perdu. Mais en finale, et contre Djokovic, pour les Italiens, c'est un peu comme s'il avait gagné. Depuis cet été, les journaux lisent d'ailleurs dans le moindre événement toute la beauté et la générosité du monde. La Repubblica titrait il y a quelques jours sur les « notti magiche », des nuits bleues et magiques qui s'enchaînent et prolongent un été azuré destiné à ne jamais finir dans nos cœurs. Pourquoi tant de lyrisme ? Parce qu'un Italien a remporté le Grand Prix de moto et qu'un autre a conservé son titre de champion du monde de cyclisme. Qu'est-ce que ça raconte de l'Italie finalement, cet émerveillement général ? Je m'en suis rendu compte en allant écouter Toto Cutugno. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
Lasciatemi cantare. Sono un italiano. On a tous nos faiblesses, hein.
Les commentaires sous la vidéo m'ont frappé. Des dizaines et des dizaines de messages saluent un pays qui obtient finalement la gloire qu'il mérite. Des déclarations d'amour venues d'internautes turcs, portugais, péruviens, bulgares, grecs, roumains, japonais, brésiliens, algériens. Des félicitations pour la victoire au foot ou à l'Eurovision. Et ça leur fait tellement de bien aux Italiens. Quand, grâce à la musique ou au sport, l'étranger voit en eux autre chose que des pizzaiolos ou des mafieux. Si les Italiens vont bien, c'est donc aussi grâce à lui.
La première pensée que je voudrais partager avec vous, alors que je vous demande un vote de confiance, concerne notre responsabilité nationale.
Mario Draghi, Super Mario, même si son discours d'investiture au Sénat était loin de la frénésie d'un jeu vidéo. Arrivé en catastrophe pour sortir son pays de la crise sanitaire, économique, sociale et politique en février dernier, soutenu par quasiment tous les partis, Draghi, c'est le consensus national presque atteint. C'est l'homme qui a vacciné son pays, le big boss de la croissance à 5%. Mieux, Mario Draghi est apprécié à l'étranger. C'est le seul Italien à figurer dans le prestigieux classement du magazine Time sur les 100 personnalités les plus influentes du monde, paru ce mois-ci. Grâce à des figures politiques comme lui, les Italiens ne sont plus ce peuple de péplum dont la grandeur liée à l'Antiquité ne serait pas près de revenir, ou les comiques de l'époque Berlusconi. Ils sont respectés, respectables, et souhaitent que cette lune de miel avec eux-mêmes n'en finisse jamais. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you
see is smarter than he. C'est sans doute la seule capitale européenne où l'on peut admirer les dauphins en ville. À Lisbonne, au Portugal, les dauphins sont de retour dans l'estuaire du Tage depuis le début de la pandémie de Covid-19. Et c'est un atout touristique pour la ville. Un reportage de Marilyn Darcy.
La marée est contraire. Les dauphins ne vont pas rentrer dans le Tage. Le canot de Terra Incognita fend les vagues qui grossissent à l'approche de l'embouchure du Tage. Il va devoir parcourir plus de 20 km pour trouver les animaux. Miguel, pilote du pneumatique, est diplômé de navigation.
Là, il faut qu'on aille jusqu'à la bouée, à l'entrée de la barre du Tage. Ça va nous permettre de chercher les dauphins, plus sur la côte nord. Si on n'en trouve pas, on ira au sud.
Entre le phare du Bugio et le fort de la Tour, côte nord, les vagues se renforcent encore. Inès Matado, biologiste, scrute l'horizon.
Là-bas, on a énormément de mouettes rassemblées. C'est signe qu'il y a des poissons ici. On va s'approcher du banc d'oiseaux et chercher les dauphins. Ils vont peut-être s'approcher entre-temps.
Soudain, les dauphins. Et toujours la même émotion à voir de si près les animaux curieux de nature. Inès Matado.
Les dauphins, ils ont toujours été là, y compris dans le Tage. Mais c'était moins fréquent. Et puis, il y a plus de gens qui les cherchent. Alors du coup, on a bien plus de signalements, car il y a de plus en plus de gens intéressés par leur présence. C'est normal d'en entendre parler davantage.
Un événement a amplifié le phénomène des dauphins dans le Tage, la Covid, et surtout la diminution de la pêche illégale que la pandémie a entraînée. Explication de Miguel, le pilote.
Les pêcheurs capturent les maigres, ils mettent des filets sous l'eau, ça fait comme un mur, et les poissons sont pris au piège. Mais ça empêche aussi les dauphins de passer, parce qu'eux aussi vont derrière les maigres, et ils peuvent être pris dans les filets ou bien renoncent à entrer dans le fleuve.
Lisbonne est avec Ankara, en Turquie, l'une des capitales qui peut se vanter de voir passer des dauphins sous ses fenêtres. Il s'agit de les protéger. Bernard Queiroz, propriétaire des canaux de Terra Incognita. Il estime que le partenariat établi avec l'Océanarium de Lisbonne permet une prise de conscience.
On est vraiment impliqués pour que les dauphins restent dans le Tage. On fait des actions de sensibilisation. Les dauphins apparaissent dans les médias, à la télévision, pour que les gens prennent conscience qu'ils existent, qu'ils sont là, car on ne peut protéger que ce que l'on connaît. Et on intervient aussi dans les écoles, car le dauphin est une espèce porte-drapeau que tout le monde connaît et aime. Ça permet d'aborder toutes les questions de l'écologie.
Les dauphins de Lisbonne, dans le Tage qui baigne la capitale ou à son embouchure, sont devenus une nouvelle attraction touristique.
Un reportage de Marilyn Darcy à Lisbonne pour Accent d'Europe. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. L'émission est aussi disponible en podcast sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.